Oui, bonjour, ici Psycho Balado, un nouvel épisode en ce beau vendredi 2 juin 2023 avec Yves Dalpé, psychologue. Alors, comme vous le savez, chers auditeurs, je suis en train de lire le livre qu'on peut se procurer sur Amazon et qui s'intitule « La gentillesse dans le couple », co-écrit avec Joanne Côté. Alors, dans un premier temps, je vais reprendre une première partie du dernier épisode parce que je le trouve important et puis ça va bien nous situer avec le contexte général du titre général de cet épisode qui est « Les champions de la gentillesse dans le couple ». Alors donc, dans un premier temps, je vous lisais la semaine dernière ce qui allait avec le titre « La présence, la précieuse attraction mutuelle ». Dans le couple, alors voici. Donc, je reviens sur ces paragraphes avant d'enfiler avec du nouveau texte. L'attraction réciproque est la base de l'amour des amoureux. Les deux membres d'un couple le savent et jouent sur ce tableau. Il existe un petit jeu subtil à ce sujet. Avec le temps, chacun sait très bien ce qui attise l'autre et en mesure l'effet avec justesse. Julie, par exemple, perçoit instinctivement le ravissement de son amoureux quand elle est légèrement vêtue. Celui-ci devient instantanément de bonne humeur et elle peut obtenir ce qu'elle veut de lui. Et elle arrive au même résultat quand elle revêt telle sorte de vêtements ou qu'elle se coiffe de telle manière. Elle sait spontanément ce qui plaît à son homme et ce qui le rapproche d'elle, qu'elle mimique le charme et quel mouvement corporel l'excite. L'inverse est vrai, bien entendu. Elle connaît très bien la recette pour inspirer de l'aversion et de la distance. Même chose pour son conjoint, bien sûr. Ainsi, chacun envoie des messages non-verbaux inconscients à l'autre sur son désir d'être proche ou distant. Certaines personnes en font des luttes de pouvoir. « Tu vas m'aimer comme ça me chante, sans que j'aie à me soucier de toi », qu'elles se disent. Et elles imposent des choix contraires au goût de leur amoureux. Ouvrez les guillemets, « Tu vas m'aimer avec 20 livres de trop », et tu vas me désirer quand même, fermer les guillemets, qu'elle pense avec un brin de colère. De son côté, Marie-Josée déplore l'allure des vêtements de son conjoint Michel, mais il résiste catégoriquement à ses suggestions. Certaines personnes manquent de sensibilité et n'accordent aucune valeur aux préférences de leur conjoint. L'attraction s'en ressent malheureusement et il ne reste plus qu'à jouer les victimes. L'amour romantique est durable quand les amoureux sont attentifs l'un à l'autre sur ce genre de sentis subtils, spontanés, involontaires et inconscients. Une corrélation retrouvée dans ma thèse doctorale rejoint l'unanimité actuelle des chercheurs. La fréquence des relations sexuelles d'un couple est en corrélation avec son bonheur conjugal général. Mais ceci ne veut pas dire qu'une plus grande quantité d'activité sexuelle prédise une plus grande satisfaction conjugale automatiquement. C'est plutôt une régularité serrée convenant aux deux conjoints qui va de pair avec le bonheur du couple. Ce qui rend cette régularité prévisible, c'est la qualité de la relation. Bien entendu, si l'un des deux conjoints domine l'autre, la réaction de distance sexuelle est presque assurée. La quantité de la relation globale, c'est-à-dire, la qualité de la relation globale entre deux amoureux est le fondement de la durée de l'attraction sexuelle. Tout se tient. Un bébé est aimé de la bonne façon et il se développe harmonieusement dans l'affection. Plus tard, il aimera sainement son amoureuse et elle le lui rendra bien. Les deux conjoints entretiendront une vie sexuelle constante et satisfaisante, digne de la qualité de leur lien romantique. Et ces deux adultes compteront tellement l'un pour l'autre qu'ils contiendront leurs désirs suscités par d'autres personnes afin de protéger leur trésor. Au contraire, un enfant mal aimé et parfois même abusé hérite d'un trouble de l'attachement et développe des traits de personnalité dysfonctionnels. Plus tard, il ne sera pas aimé adéquatement et cela se transformera en trouble du désir. Trouble dans le sens qu'il vivra de l'insatisfaction en matière de fréquence sexuelle dans son couple et aussi dans le sens que ses désirs pourront s'éparpiller, se déposer sur du matériel virtuel ou sur d'autres personnes. Nous proposons que si l'ignorance sexuelle et surtout le puritanisme inhibent sexuellement l'individu, c'est sa faible capacité d'aimer qui est le principal inhibiteur une fois la relation amoureuse bien enclenchée. Probablement que le puritanisme sert de prétexte au raidissement de l'individu sur ses gardes face à l'amour. Autrement dit, l'individu élevé dans le puritanisme par des parents aimants va transformer son puritanisme avec le temps et développera son potentiel sexuel, tandis que l'individu malmené affectivement dans son enfance va s'accrocher à ses valeurs puritaines plus tard pour marquer sa distance relationnelle dans sa vie conjugale. C'est une réaction typique chez la femme. Au contraire, cet individu malmené peut se révolter et faire le contraire de ce qu'on lui a inculqué en manquant de respect dans l'expression de sa sexualité et en étant hypersexuel. C'est la réaction la plus fréquente qu'on rencontre chez les hommes. C'est pourquoi, la plupart du temps, la meilleure approche du traitement des problèmes du désir sexuel s'éloigne de l'érotomanie, c'est-à-dire l'art de faire l'amour. Plus une personne fonctionne mal dans la vie, moins elle décode bien son entourage. En psychothérapie, les entrevues servent beaucoup à ajuster les lunettes déformantes de la réalité. Quand votre mari s'est retiré sexuellement il y a quelques années, c'est peut-être parce qu'il avait honte de ses érections défaillantes et non pas parce qu'il ne vous aimait plus. Si votre femme n'est pas proactive sexuellement, c'est peut-être parce qu'elle est encore épuisée à la suite de l'accouchement du dernier bébé et non pas parce qu'elle n'est plus attirée par vous. Et si elle a été désagréable ce matin, c'est peut-être en réaction à votre propre attitude déplaisante. La capacité d'introspection est fondamentale dans le couple. Il est tellement facile de critiquer l'autre au lieu de voir son propre apport dans un différent. Un homme avait eu des amoureuses qui lui avaient manifesté du désir de façon débordante et il les avait toutes fuies, apeurées par leur ardeur. Leur libido était trop forte pour ses capacités d'absorption. L'attitude envahissante de sa mère avait été pour quelque chose. Celle-ci l'avait trop aimé et cela l'avait fait reculer. Il se sentait trop important pour elle et ceci l'exaspérait. Comme s'il prenait la place de son père à ses yeux, il était le fils parfait qui remplaçait le mari honteux. Il détestait ce rôle. Et il tenait sa mère à distance malgré son affection indéfectible pour elle. C'est pourquoi il avait fui défensivement les femmes par trop éprise de lui. Et maintenant, il se plaignait du manque d'ardeur de son amoureuse en ignorant qu'il n'en tolérerait pas davantage. Un mot maintenant sur l'oscillation constante vécue dans le fort intérieur d'un amoureux. Nous soupçonnons que ce malaise soit plus fréquent qu'on pense. Un moment, la personne aimée est désirable plus que tout au monde, et l'instant d'après, la magie s'évanouit pour laisser place à la panique anxieuse. Dans un amour naissant, cela peut conduire à l'avortement de la relation. Dans un amour installé, cela peut conduire à de la mauvaise humeur chronique de façon cyclique, et ceci de façon inconsciente et mystérieuse. Pourquoi le soleil s'est-il éteint subitement? et pourquoi s'illumine-t-il de nouveau tout à coup? S'agit-il de subtils messages qui proviennent inconsciemment de la personne aimée ou si c'est l'amoureux vacillant qui projette ses états d'âme à partir de ce qu'il voit? Point d'interrogation. Nous ne parlons pas ici du désir qui tombe à la suite d'une discorde. C'est plus pernicieux que cela. Les deux amoureux sont en bon terme et voilà que l'un d'eux tombe à off. L'amoureuse n'est plus attrayante à ses yeux et il en développe de la détresse. La solution serait simple si cet état était permanent, ce serait la rupture. Mais non, un peu plus tard, les choses se replacent et le soulagement du contentement remplace la panique. Ce qui existe de plus près dans la littérature psychologique à ce sujet, c'est la réaction cyclique typique des gens qui souffrent du trouble de personnalité limite, qui consiste à idéaliser le conjoint un moment pour le démoniser l'instant d'après, en l'accablant de tous les maux avec colère. Mais l'inconsistance du sentiment amoureux auquel nous référons ici est différente. Il s'agit d'un malaise presque physique qui envahit momentanément l'amoureux sans colère. En réalité, nous voyons cela comme une réaction anxiogène passagère à une menace inconnue et inconsciente. Si le lien amoureux est fortement installé, la personne anxieuse accepte ces périodes de circuits intérieurs qui s'éteignent et se rallument en misant sur la dominance temporelle positive. Autrement dit, cette personne vit de temps en temps des ouragans internes qui font partie de son microclimat individuel. Ceci est probablement beaucoup plus commun qu'on pourrait penser. L'évaluation de la beauté des amoureux l'un par l'autre est plus fugitive qu'on pense. Cette fugacité doit être comprise pour éviter des tourments inutiles. La durée de l'attraction libidineuse est en cause. On pourrait en conclure qu'une condition essentielle à tout amour durable, c'est la tolérance des ambivalences et des désagréments inévitables. Nulle femme, nul homme ne pourrait me combler 100% du temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le critère d'évaluation de ma satisfaction amoureuse doit être élargi. Est-ce que, tout compte fait, la majorité du temps, la présence de mon amoureuse ou de mon amoureux me charme et me ravit? Point d'interrogation. Et son absence prolongée me désole-t-elle? Maintenant, un autre chapitre qui fait suite à cela s'intitule « L'amour doit baigner dans 5 fois plus de gentillesse ». L'attraction entre homme et femme tient compte d'une multitude de facteurs basés sur les besoins biologiques, sociaux et psychologiques. Le choix amoureux implique donc des évaluations subtiles et complexes de soi-même et des candidats potentiels menant à des compromis nécessaires. Probablement que le degré de passion éprouvé par une personne est inversement proportionnel à la quantité de compromis à faire. Autrement dit, plus une personne correspondrait à l'idéal que nous recherchons, plus elle engendrerait de l'excitation et de la passion. Et plus l'écart est grand du côté positif entre ce que je pense mériter et ce que j'obtiens, c'est-à-dire que la candidate est plus belle, par exemple, plus la passion est grande aussi. Au contraire, si les compromis sont trop nombreux chez l'un des deux conjoints, le candidat est moins beau, moins fortuné, etc., le lien amoureux créé est probablement vacillant dès le départ. Ce conjoint sera tenté de rectifier le tir dès qu'il en aura l'occasion, même après un mariage, même après la venue d'enfants. Cette correction pourrait se faire par le biais d'infidélité aussi. L'admiration réciproque est un élément fondamental dans la création d'un couple, son bonheur et sa survie. On entend souvent que l'idéalisation romantique de l'être aimé est nuisible ou nécessairement frustrante pour les individus. Mais Des recherches invalident cette idée. Au contraire, les amoureux qui s'idéalisent auraient tendance à être plus satisfaits de leur relation et à s'aimer davantage. En tout cas, une recherche récente faite par Zentner, professeur de psychologie à Genève en Suisse, arrive à la conclusion logique suivante. Les amoureux qui avaient la plus grande satisfaction conjugale et le plus ardent désir de poursuivre leur relation se recrutaient chez ceux qui étaient mariés avec des conjoints correspondant le plus avec leur idéal. Les traits de la personnalité de leur conjoint correspondaient à leurs souhaits. Ce n'est pas par hasard si l'inverse de l'idéalisation, soit le mépris, dans un couple, est l'élément le plus destructeur de la relation conjugale. Le psychologue et chercheur américain Gottman a mené une recherche de 20 ans auprès de 2000 couples mariés pour découvrir que dans un mariage durable, la communication verbale et non verbale est 5 fois plus positive que négative. Pour que l'amour dure, la balance des échanges positifs ne doit pas égaliser les échanges désagréables. Les gentillesses doivent peser 5 fois plus que les échanges négatifs. Du côté des gentillesses, on retrouve les gestes affectueux, le respect, l'affection, la manifestation d'intérêt pour l'autre, l'implication, la tolérance, l'empathie, le partage des joies, de l'humour, etc. Du côté négatif, le manque d'admiration semble criant dans la liste de Gottman. Il mentionne le mépris, l'insulte, le sarcasme, la moquerie, la critique négative, le blâme, l'attaque de la personnalité, etc. Dans son livre intitulé La psychologie de l'amour romantique, le psychologue californien Nathaniel Branden met en lumière l'importance de l'admiration dans un couple. L'amour sainement romantique, pense Branden, implique qu'on se valorise assez soi-même pour créer un lien amoureux avec une personne qu'on admire. La tragédie, selon Branden, c'est que la majorité écrasante des gens souffrent de manque d'estime de soi. La conviction qu'ils sont inférieurs est probablement ancrée dans leur psychisme. Ils ne se sentent pas dignes d'être aimés. Ils ne trouvent pas normal qu'on les aime. Dans le choix conjugal, les enjeux sont considérables. C'est la valeur même de chaque individu qui est en cause. C'est pourquoi nous avons tant besoin d'être bien traités par la personne qui est censée nous aimer plus que tout au monde. Alors, dans la suite logique, on arrive au chapitre dont le titre suivant est celui-ci. Qui sont les champions de la gentillesse? En entrevue, une cliente lance tout à coup à son conjoint: Tu as raison d'être en colère contre moi. Je vais me forcer pour aller dans le sens que tu désires. Je prends tes récriminations au sérieux et je te demande sincèrement pardon pour les frustrations que je t'ai fait vivre, même si je n'ai pas fait exprès. Fermez les guillemets. Avouez qu'il faut être fort pour réagir comme cela. Ce sont les gens en bonne santé mentale qui sont les champions de gentillesse. Au contraire, ce sont les personnes malsaines qui dévalorisent la gentillesse et qui sont désagréables. On sait que les individus dotés d'une intelligence émotionnelle supérieure réussissent mieux dans la vie, autant dans leur vie familiale qu'au travail d'ailleurs. Mieux une personne fonctionne, moins elle est défensive. On peut contester ses idées sans être bousculé. On peut défier son autorité sans mériter une riposte négative outrancière. On peut être spontané sans inquiétude. C'est parce que les gens en bonne santé mentale sont non seulement plus sûrs d'eux-mêmes, mais en plus, ils font des transferts positifs dans leurs relations interpersonnelles. Ceci signifie que les gens autour d'eux leur rappellent inconsciemment les personnes significatives de leur vie qui les ont aimées. Leur histoire a été positive, ils savent qu'on les aime d'emblée, donc il n'est pas nécessaire d'être méfiant et de se défendre. Ils peuvent être spontanés et chaleureux. À l'inverse, les mal-aimés présument que leur entourage ne les aime pas. Cela était vrai autrefois durant leur enfance et ils perpétuent le seul scénario qu'ils connaissent. Plusieurs recherches démontrent que ce sont les individus au style d'attachement confiant hérités de leur enfance qui ont le plus de chances de vivre des amours romantiques à long terme. Qui sont ces gens au style d'attachement confiant? Ce sont ceux qui sont équilibrés et en bonne santé mentale suite à un traitement affectif reçu dans leur enfance et qui ont développé de la résilience. En gros, quand on parle du style confiant, on réfère à ces personnes bien dans leur peau, autant dans leur enfance qu'une fois devenues des adultes. Ces personnes vivent le même genre de relations satisfaisantes qu'elles ont expérimentées avec leurs parents. Dans l'intimité, elles se sentent en sécurité et font confiance à l'autre, comme elles se savent aimées, comme elles se savent aimables, tout simplement parce qu'elles ont été aimées d'emblée par leurs parents. Elles croient les autres qui les aiment. Il ne leur est donc pas nécessaire de le vérifier constamment et ces personnes s'occupent bien de leurs besoins et de leurs désirs, qui sont clairs pour elles, parce que c'est comme ça qu'elles ont été traitées par leurs parents. Leurs besoins d'attention et de protection ont été adéquatement satisfaits par leurs parents, c'est pourquoi elles ont la disponibilité d'être présentes à l'autre, d'être intéressées et intéressantes. On peut se référer à Rosemary Charest en 2008 pour ce beau résumé des personnes confiantes. Les individus confiants s'engagent plus dans leurs relations amoureuses, sont plus confiants, font plus confiance, ils sont plus satisfaits, ils démontrent de la candeur, de la sécurité, une attitude de confiance envers autrui et une représentation de soi positive, cohérente et intégrée. Leurs jugements des autres sont ouverts et flexibles. Les hommes confiants sont plus flexibles et moins défensifs dans leur communication avec les autres. En plus, les confiants adoptent des stratégies constructives pour résoudre les conflits. Leurs relations intimes sont satisfaisantes et plus stables. Sabourin et Lefebvre en 2008 mentionnent que l'exploration sexuelle de ces individus se vit surtout dans des relations à long terme, ce qui accroît leur satisfaction et leur stabilité relationnelle. Et leurs relations sexuelles sont vécues de façon positive sur le plan des émotions. Aussi, les personnes confiantes sont plus expressives et plus transparentes avec les autres. Par exemple, dans une situation de recherche en laboratoire, elles font plus de confidences sur leur vie intime que les personnes de style attachement évitant. Aussi, elles sont capables de se souvenir d'événements pénibles sans être submergées par la négativité émotionnelle, comme ça arrive souvent chez les personnes au style d'attachement évitant. La perspective de la théorie de l'attachement veut que le sentiment de sécurité procuré par les figures d'attachement sont tellement importantes que même les fonctions cognitives sont affectées quand une personne n'est pas sécurisée. Les non-confiants sont donc mobilisés émotionnellement et cognitivement par leurs difficultés personnelles de toutes sortes et par conséquent, leur efficacité générale en est affectée. Au contraire, les confiants conservent toute leur énergie pour s'actualiser de toutes sortes de façons. Ainsi, plusieurs recherches ont montré que les confiants ont plus de curiosité et ont plus envie d'explorer de nouveaux environnements. Ils ont aussi plus d'ouverture cognitive et plus de tolérance pour l'ambiguïté. En plus, leur pensée et moins dogmatique. On a aussi découvert que plus une personne était de type confiant, moins elle avait tendance à être hostile envers les membres d'autres groupes que le sien. Les confiants sont donc plus tolérants et plus acceptants en ce qui concerne les personnes qui n'appartiennent pas à leur groupe. Aussi, les confiants manifestent une plus grande empathie et plus de compassion envers les gens qui souffrent, alors que les évitants ont plus d'attitudes négatives envers ces personnes et sont plus mal à l'aise en présence d'un malade. Les confiants poursuivent d'ailleurs plus fortement, souscrivent d'ailleurs plus fortement à des valeurs plus sociales qui concernent le bien-être. Ils ont plus de compassion et procurent plus de soins altruistes. En résumé, les gens qui possèdent un sentiment de stabilité dans leurs attachements se sentent généralement en sécurité, entretiennent des visions optimistes, s'appuient sur des stratégies gagnantes de gestion d'événements pénibles et interagissent avec les autres de façon confiante et ouverte. Qui plus est, ces chanceux-là disposent de ressources mentales pour croître de diverses manières, élargir leurs horizons et leurs capacités et actualiser leurs talents naturels au lieu d'utiliser leurs énergies dans des manœuvres défensives. La théorie de l'attachement nous apprend que la sécurité affective procurée par les figures d'attachement est une force fondamentale qui facilite le développement de traits psychologiques positifs comme la résilience, l'optimisme, l'espoir, l'affectivité positive, la curiosité, l'exploration, la saine autonomie, le sentiment d'interconnexion aux autres, le sentiment d'appartenance, la tolérance, la capacité de pardonner, la capacité d'aimer et la gentillesse. En général, les amoureux se choisissent à peu près au même niveau de maturité, c'est-à-dire au même niveau d'adaptation dans la vie. Nous avons tendance à tomber en amour avec une personne qui partage le même style d'attachement que nous. Autrement dit, les gens qui sont confiants se choisissent entre eux et les non-confiants font de même. Quand ce n'est pas le cas, l'ajustement conjugal est insatisfaisant, le non-confiant ayant un impact négatif considérable sur l'autre. Les as de la gentillesse en amour se recrutent chez les personnes qui ont eu la chance de développer un lien de confiance dans leur vie parce qu'elles ont été aimées de la bonne façon par leurs parents. Alors, je vais arrêter ici à cause de l'heure. Je ne veux pas en ajouter. Mais juste dire que à chaque fois que j'arrive à cette idée-là, je suis toujours scandalisé de voir comme la vie est injuste dans un sens. Ceux qui ont été malmenés dans l'enfance ont tendance à poursuivre malheureusement leur vie difficile dans la vie adulte, à moins d'avoir la chance là, de pouvoir rectifier le tir. Il y a quelques façons de le faire, on y viendra un peu plus tard. Alors, je m'arrête ici. C'était Psycho Balado avec Yves Dalpé, psychologue. Vous pouvez consulter mon site web www.dalpecote.com pour y découvrir mes services et mes livres. Alors, sur ce, je souhaite un bon 2 semaines à tous mes auditeurs qui se retrouvent un peu partout sur la planète, ce qui m'enchante énormément. Alors, au plaisir. Au plaisir de reprendre un nouvel épisode.